Allez, les enfants, préparez-vous, je vous emmène à la piscine.
Oh non,
non, pas à la piscine.
Bah, préférez aller au bowling?
Oh non, ah non, pas au bowling.
Vous préférez regarder la télé?
Oh non, pas la télé.
Bah, vous voulez écouter Radio Oulala alors?
Ouais.
Radio Oulala, Radio Oulala,
Radio Oulala.
Mais ce ne serait pas l'heure de flash culturel et nous allons rejoindre notre reporter préféré, Brice Taillandier. Où es-tu, Brice ?
Oui, bonsoir. Je vous appelle de Bretagne. Donc, suite au désert culturel actuel, nous avons constaté une recrudescence de fêtes clandestines. Et donc, j'ai fait ma petite enquête et je suis actuellement au cœur d'une fête clandestine. Et donc vous pouvez entendre la musique derrière moi. Je vais rentrer dans la salle pour aller voir de plus près. Oui, il y a beaucoup de monde. Il y a environ, je dirais, 200 personnes à vue d'œil. Les personnes ne sont pas toutes masquées. Ça danse de partout. Il y a une vie torride. Je vous dirais la moyenne d'âge est d'environ 65 ans. Et il y a pas beaucoup de distanciation physique. Mais je vais essayer de me rapprocher d'un groupe pour poser quelques questions. Ah, je vais les voir. Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous recherchez dans ce type de fête clandestine? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Merde! Allez, barrez-vous les vieux! Là, les flics! Ah, on se casse!
Ah, ben. Brice.
Ah. Brice. Ah. Ah, oui, mais il prend des risques, Brice, là.
Fais attention quand même, hein.
Oui, bah écoutez, c'était le flash culturel en direct de Bretagne. Bon ben, on vous donnera des nouvelles demain de Brice. Et puis ben à présent, donc c'est Fictionnez-vous médiathèque avec une rencontre étonnante avec une autrice. Et on écoute.
Ouh là 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 là. Radio Oulala.
Bonjour Marie.
Bonjour Alexia.
Nous sommes là aujourd'hui pour vous parler du prix Fictionnez-vous.
Alors le prix Fictionnez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est une sélection qu'on propose chaque année. Donc ce sont des romans pour les adultes. On vous propose 6 romans et vous avez du mois de novembre au mois de mai pour les lire et pour voter pour ceux que vous avez préférés.
Ces romans sont des premiers romans. Premier roman, pourquoi? Pour vous faire découvrir des nouvelles plumes et également différents genres. On n'a que l'embarras du choix.
Et pour vous faire découvrir la sélection, on va démarrer avec une interview d'une des autrices de la sélection.
Donc nous avons eu la chance d'avoir une réponse positive de Capucine Delattre, c'était super. Elle a bien voulu se prêter au jeu d'une interview en visioconférence, une interview que vous allez découvrir passionnante. C'est une jeune autrice qui a publié son premier roman en 2018, vraiment à découvrir également.
Bonjour Capucine, nous sommes vraiment très contents aujourd'hui de pouvoir échanger avec toi par caméra interposée.
Je suis ravie aussi.
Nous sommes donc là pour parler de ton premier roman, Les Déviantes, un premier roman qui est sorti aux éditions Bellefond à la fin de l'été.
Exactement.
De la rentrée littéraire. Et qui donc, ce roman, nous l'avons sélectionné pour notre prix Fictionnez-vous, un prix que l'on fait tous les ans dans notre médiathèque, et il fait partie de la sélection de 6 premiers romans. Si tu es d'accord, Capucine, je te demanderai de te présenter brièvement et puis de présenter ton roman en quelques mots.
Bien sûr. Alors donc, je m'appelle Capucine Delattre, j'ai 20 ans, je suis étudiante à Sciences Po au Paris, en master 1, master communication, médias, industrie créative. Et je viens de publier mon premier roman. En fait, je suis passionnée de littérature depuis toujours. J'ai longtemps tenu et je tiens encore toujours un blog littéraire. Donc, l'écriture a toujours fait partie de ma vie.
Et je vis de bouquine, hein, c'est ça.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Exactement, pour ceux qui voudront aller regarder. Et là, du coup, je vis une aventure assez extraordinaire depuis plusieurs mois. Moi, puisque j'ai publié mon premier roman en cette rentrée littéraire. Donc ça a été un peu chamboulé par le contexte qu'on connaît, mais ça a été malgré tout une très très belle aventure. J'ai été très bien entourée par toutes les équipes de Bellefond. J'ai eu des retours fabuleux de lecteurs tout aussi fabuleux. Et donc ça a été, et c'est encore quelque chose d'extrêmement épanouissant et d'excitant pour l'avenir. Et donc, pour ce qui est du roman, donc, le roman s'intitule Les Déviantes. Et c'est l'histoire de trois femmes qui se trouvent à un carrefour de leur existence, qui se retrouvent dans un moment de crise, un moment difficile en fait pour chacune d'entre elles, pour des raisons différentes. Mais disons qu'elles font toutes face à des décisions un peu pressantes et pas forcément très confortables, dans le sens où elles doivent décider si elles vont continuer à suivre finalement la route qu'on leur a un peu imposée et les injonctions qu'elles se sont toujours laissées administrer, ou si elles vont s'émanciper et finalement enfin écouter ce qu'elles désirent vraiment, même si c'est pas forcément dans la norme, même si ça correspond pas forcément à ce qu'on attend d'elles. Et donc plus spécifiquement, c'est un roman qui va être centré autour d'un personnage principal nommé Anastasia, qui est une jeune femme à qui tout réussit, brillantissime, elle a presque 30 ans, mais elle est déjà très bien installée dans la vie, elle a fait une grande école, elle a un emploi qui paye très bien, très prestigieux. Donc sur le papier, elle a tout réussi, et sauf qu'en fait, du jour au lendemain, elle découvre qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, ce qui est évidemment quelque chose de totalement inattendu, puisqu'elle n'a que 29 ans, et qui va profondément l'affecter, la chambouler, voire finalement la dévaster, puisqu'elle va se retrouver un peu calfeutrée chez elle, malade, fatiguée, épuisée, sans pouvoir travailler, sans avoir accès à cette vie un peu normée qu'elle avait auparavant. Et ça va la plonger dans des questionnements, puisqu'elle se rend compte que tout s'est effondré et qu'il ne lui reste plus grand-chose. Et donc, est-ce que tout ce qu'elle a poursuivi toutes ces années durant, c'était vraiment ce qu'elle voulait? Est-ce que c'était vraiment la réussite telle qu'elle se l'imaginait? Et qu'est-ce qu'elle peut faire maintenant? Quelle marge de liberté lui reste? Qu'est-ce qu'elle veut être maintenant? Qu'est-ce qu'elle veut être après la maladie? Et donc, ce n'est pas tellement un roman qui va être centré sur la maladie en elle-même. La maladie est un point de départ. Mais l'essentiel, ça va être qu'est-ce qu'Anastasia va en faire, notamment à qui elle va aller parler, à qui elle va aller se confier. Et donc, ces autres personnages, ça va être les autres déviantes qui sont elles-mêmes dans des situations un peu comme ça, un peu limite, un peu dérangeantes, un peu des déclencheurs, des catalyseurs. Et ensemble, elles vont comprendre que l'enjeu, c'est pas tellement d'obéir à certains standards, à certaines normes, mais c'est de faire preuve de bienveillance, d'écoute, d'être dans une forme de justesse par rapport à elles-mêmes et de faire du mieux qu'elles peuvent. Et tant pis si ça rate, tant pis si c'est pas ce que les autres attendent. Du moment qu'elles ont été fidèles à ce qu'elles voulaient, ce sera déjà une forme de victoire.
Elles ont essayé.
Voilà.
Capucine, si on parcourt la presse, les différents sites de critiques, tous sont unanimes à ton sujet. Pour la plupart, on évoque à propos de toi un nom à surveiller, une plume prometteuse, une autrice à suivre. Écrire un tel roman quand on n'a que 20 ans, ça peut paraître complètement surréaliste. Tant tu fais preuve de maturité à la fois dans l'écriture, dans le sujet, quand tu fais preuve de lucidité sur la vie. Franchement, on n'a pas l'impression que tu as eu 20 ans. Avec une écriture qui est vraiment affirmée, travaillée, un style propre à toi. Comment est-ce qu'on décide d'écrire un roman quand on n'a que 20 ans? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Depuis quand est-ce que tu écris? Et puis, pourras-tu peut-être revenir, c'est toujours intéressant pour le lecteur, sur le parcours de ton écrit à partir du moment où il a été construit dans ta tête, où tu l'as mis sur le papier ou sur l'ordinateur, je ne sais pas. Et jusqu'à ta rencontre avec l'éditeur et jusqu'à ce moment où ton livre est apparu en librairie.
Avant tout, merci pour tous ces compliments, ça me va droit au cœur. Donc, pour ce qui est de l'écriture, comme je le disais, ça a toujours fait partie de ma vie. Même quand j'étais au collège, j'écrivais, bon, c'était pas forcément toujours d'une grande qualité, mais j'écrivais des pièces de théâtre, des réécritures de contes de fées. C'était toujours très, très présent chez moi. J'adorais les rédactions en cours de français, c'était mon moment. Et en fait, je me suis mise à écrire des romans à la fin du collège. J'ai commencé un premier roman à ce moment-là, quand j'avais 13 ans à peu près. J'ai mis longtemps à le finir. J'ai mis 3 ans à le finir parce que j'écrivais un peu par-ci, par-là. Plus ou moins motivée selon les périodes, mais donc voilà, je l'ai terminé. Et quand j'ai terminé ce premier roman, qui n'était pas très bon, hein, c'était un peu un plagiat de différentes lectures que je pouvais avoir à l'époque, j'ai quand même eu cette espèce de révélation, de me dire, c'est ça que je veux faire, c'est créer des histoires, ça me plaît, ça m'épanouit. Et au-delà de ça, je voyais que ça me faisait apprendre des choses sur moi-même et que j'évoluais avec mes romans. Et en fait, j'ai tout de suite su que c'était quelque chose que je voulais poursuivre. Donc à partir de là, j'ai continué d'écrire des romans, des textes, des nouvelles. J'ai terminé d'autres romans, d'autres autres romans, mais je voyais qu'ils n'étaient pas encore mûrs. Je voyais que c'était pas susceptible d'être envoyé à des éditeurs ou quoi que ce soit. Et puis en fait, j'ai terminé un donc un autre roman à la fin de ma deuxième année à Sciences Po, donc il y a un an et demi à peu près. Et celui-là, en fait, c'était un peu le premier roman dont j'avais pas trop honte. Je me suis dit, c'est bon, celui-là, je l'assume en société, je peux l'envoyer à les éditeurs. Donc j'avais 18 ans, je ne me faisais pas trop d'illusions sur les chances que ça avait de marcher, parce que vraiment le taux de manuscrits publiés sur l'ensemble des manuscrits envoyés par la poste est vraiment très 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 faible. Donc je l'ai envoyé un peu la fleur au fusil en me disant « Allez, on va voir ce que ça va donner ». Et ça n'a pas raté, hein, j'ai eu plein de lettres de refus, mais bon, je m'y attendais, ce n'était pas tellement ça. L'objectif, c'était vraiment juste de faire cette démarche-là pour la première fois d'envoyer un manuscrit. C'est très fort, c'est très puissant, en fait. Et c'est aussi une façon de faire vivre le récit, même si ce n'est pas publié. Et en fait, j'ai fini par recevoir assez vite un mail d'une personne qui travaillait chez Bellefond et qui allait devenir mon éditrice, mais ça, je ne le savais pas encore, où elle m'a dit qu'en fait, elle n'était pas forcément convaincue par ce roman-là, mais qu'elle voulait quand même qu'on se rencontre. Et donc, on s'est rencontrés, on a eu un peu, je pense, un petit coup de cœur amical, il s'est passé quelque chose. Et elle m'a dit, écoute, voilà, ce roman... A priori, non, mais si tu continues à écrire, envoie-moi ce que tu fais et puis on en reparlera. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais déjà en tête l'intrigue des déviantes en germe. Et donc, j'en ai parlé rapidement. Elle m'a dit, OK, bah, écris ça et puis on voit ce qui se passe. Et donc, à la fin de l'été, du coup, il y a un an à peu près, je lui ai envoyé les 50 premières pages pour voir ce qu'elle en pensait, pour prendre la température. Et quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai reçu un mail 2 semaines plus tard pour me dire... On publie. Donc, beaucoup là, d'émotions. Ouais, c'était une sacrée nouvelle. Donc, j'ai fini le roman, quand même. Donc, j'ai dû le finir.
C'est vraiment, voilà, sur les 50 premières pages.
Elle a trouvé le texte. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. J'ai fini le roman. Voilà, j'ai dû le finir il y a un an à peu près, en décembre, ce jour-là. Et puis après, le processus d'édition... s'est mis en place, un peu bouleversé par le Covid forcément, puisqu'il y a un ensemble de revues, de réunions qui auraient dû avoir lieu et qui n'ont pas pu avoir lieu, ça s'est quand même fait de façon hyper enthousiaste, hyper bienveillante, et ça a été une très belle aventure, ça l'est encore, et donc voilà.
D'accord, super. Bah, quelle aventure.
Ouais, vraiment.
Ouais. Capitaine, si on rentre maintenant un petit peu dans le cœur de ton roman, le titre est Les Déviantes. Quel sens tu donnes à ce mot, alors au travers de tes héroïnes, mais ce qui nous intéresse, c'est aussi quel sens toi tu donnes à ce mot dans la vie. Et est-ce qu'il y a des Anastasia, des Iris et des Lolita modernes auxquelles tu penses, et notamment quand tu as écrit ton roman Les Déviantes?
Alors bien sûr, Les Déviantes, c'est un terme qui interpelle beaucoup les personnes qui me disent mais pourquoi ils s'appellent comme ça? Qu'est-ce qu'elles font, tes personnages? Est-ce qu'elles commettent des crimes? Et en fait, j'ai voulu jouer sur ce double sens-là. Je trouvais ça intéressant, en fait, qu'on ait un terme qui a une acception qui est vraiment très péjorative en général. Enfin, quand on traite quelqu'un de déviant, c'est pas très gentil, ça prend du temps. Mais auquel je trouve aussi peut-être un sens alternatif un peu plus noble, dans le sens où dans la déviation, dans la déviance, on peut voir aussi une forme d'émancipation, d'affirmation, de provocation envers la norme. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu travailler, c'est cette ambivalence entre la culpabilité qu'on peut avoir quand on n'obéit pas à certaines pressions, à certains standards, et en même temps l'immense libération, l'immense soulagement qu'on peut y trouver. Et mes personnages, en fait, sont des gens auto-revendiqués, qui sont fiers de l'être et qui cultive en fait cette déviance qu'on a tous. Personne n'est 100% satisfait des standards, des normes, des schémas imposés. Et en fait, ce que font mes personnages, c'est cette espèce de travail de revalorisation de leur déviance interne, de réconciliation avec ce qu'elles peuvent avoir de différent, de particulier, d'unique. Et puis, il y a aussi évidemment un côté presque un peu ironique, dans le sens où le roman s'appelle Les Déviantes, ça parle de déviance, mais pour autant, est-ce que les personnages vont forcément réussir à se défaire de tous les schémas, de toutes les injonctions? Pas forcément. Dans quelle mesure est-il possible de se libérer? On ne sait pas, est-ce que c'est vraiment possible d'être 100% fidèle à ses propres souhaits? On ne sait pas, est-ce que c'est vraiment possible même d'avoir des vœux à soi, des rêves à soi? On ne sait pas. Donc il y a aussi une espèce de frustration. Peut-être qu'on se veut déviant, mais qu'on ne peut pas toujours forcément l'être. Donc voilà, ça joue sur plein de niveaux. Les déviantes, c'est à la fois celles qui sont perçues comme... en gros, des enfants passage, mais aussi celles qui se perçoivent comme des femmes libres et enfin affirmées. Et enfin, cette espèce de frustration de est-ce que c'est ça la révolution? Est-ce que c'est tout ce qu'on peut avoir? Est-ce que c'est pas déjà bien? Voilà. un ensemble de choses. Et alors, la deuxième question, j'ai oublié.
Est-ce que dans la vie aujourd'hui, est-ce qu'il y a des femmes qui incarnent, qui seraient des Anastasia, Iris, Elita, des
Ouais. On m'a déjà demandé est-ce que vous avez un nom de politicienne, d'artiste, de scientifique, d'une femme comme ça inspirante qui aurait pu servir d'inspiration ou de muse au texte. Et en fait, ma réponse à ça, c'est que des gens, il y en a partout. Moi, en tout cas, les personnes qui m'ont le plus inspirée, c'est des proches, en fait, des personnes que je connais, des amis, des personnes de ma famille. Et qu'en fait, autour de nous, on a ces inspirations-là, c'est dans nos conversations tous les jours, c'est cette amie qui nous encourage, c'est cette mère qui nous écoute, c'est cette collègue qui nous aide. Vraiment, les légendes sont partout. Et en fait, l'enjeu, c'est juste de les reconnaître et de pouvoir dialoguer et d'échanger. Donc oui, il y a absolument des Anastasia modernes, des Lolita modernes. Je connais des Iris, je suis un peu une Iris. Et enfin, c'est, en tout cas, c'est ce que j'ai voulu proposer. Et c'est pour ça aussi que j'ai des personnages qui ne sont pas... des grandes célébrités ou des princesses ou des magiciennes, c'est des femmes que j'ai voulu aussi pas ordinaires mais aussi humaines, aussi authentiques, aussi accessibles que possible. Ouais, très proches, parce que je voulais finalement que mes lecteurs et mes lectrices ils puissent s'identifier à elles, ils puissent voir ce qu'ils avaient en commun avec elles, et je crois que c'est le cas. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'en suis heureuse, en fait, parce que j'ai envie d'avoir des personnages qui soient réalistes, qui soient crédibles et qui puissent ressembler à ces personnes qu'on a autour de nous et qui nous inspirent et qui nous soutiennent au jour le jour.
Capucine, ton roman est vraiment très juste, lumineux. Enfin, je le trouve plein d'espoir, même si le point de départ est dramatique, puisque c'est la maladie, mais c'est pas ça qu'on va retenir. Je pense qu'il y a un message, enfin, tu vas me confirmer, qui ressort très fort dans ton roman, c'est quelle que soit la situation dans laquelle se trouve. Alors, effectivement, on parle des femmes, mais on peut peut-être plus parler aussi généralement de l'humain. Quelle que soit dans la situation dans laquelle on se trouve, on a toujours cette faculté, cette possibilité de rebondir, de s'en sortir. Est-ce que c'est vraiment un message que tu souhaites faire passer à destination d'un public ou à destination aussi peut-être de ta génération, la génération des 20 ans, qui ont besoin de ce genre de message?
Alors, je pense pas avoir volontairement voulu faire passer un message fixe en tant que tel. Enfin voilà, encore une fois, j'ai 20 ans, j'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. Moi-même, en fait, j'apprends encore et j'ai appris beaucoup de choses en écrivant le roman. Donc, peut-être pas un message, mais en tout cas, un élan, oui, j'espère. Moi, en fait, ce que je dis souvent à propos de ce roman, c'est que c'est une incitation à la bienveillance. Dans le sens où, en fait, on a très très vite fait de juger la situation de certaines personnes ou d'appliquer des conseils ou des recommandations à d'autres, alors qu'en fait, personne n'a les mêmes outils, personne n'a les mêmes chances, personne n'a les mêmes opportunités, personne n'a les mêmes désirs, personne n'a les mêmes sensibilités. Et on a vite tendance à l'oublier. Et le simple fait de le reconnaître, d'en prendre conscience et d'en parler, déjà, c'est un soulagement immense. Et ça permet un nombre infini de frustrations d'être évacuées. Donc, en fait, oui, si les gens peuvent retirer quelque chose de cette histoire, je l'espère, c'est voilà, ce besoin de bienveillance qu'on a et dont on manque aujourd'hui. Et puis aussi, oui, évidemment, c'est un terme un peu galvaudé, mais moi, je crois beaucoup en l'idée de résilience, de le fait que tout n'est pas toujours possible, c'est faut dire ça, hein. Mais même voilà, mon héroïne qui est atteinte d'un cancer, on peut pas lui dire non, mais voilà, ça va aller, non, il y a vraiment des moments où c'est dur, il y a vraiment des moments où concrètement on n'a plus trop de marge de manœuvre, mais même là, je crois qu'on peut cultiver une forme de d'affirmation de soi, de d'épanouissement, d'approfondissement, d'enrichissement. Et qu'on gagne toujours à se poser ces questions-là, même si elles sont douloureuses parfois, même si parfois on peut se sentir un peu seul avec.
Capucine, je vais être obligée de te couper.
J'étais trop bavarde.
Non, c'est très très court. En tout cas, ces dernières paroles sont ce message en fait que tu laisses et donne vraiment envie d'aller découvrir, d'aller à la rencontre d'Anastasia, d'Iris et Lolita. Et puis de jeter toujours un œil sur ce que sur tes prochains écrits. Voilà, ça donne vraiment envie. On te remercie d'avoir consacré du temps à cette rencontre. Et
merci
puis,
à vous.
Peut-être qu'on aura l'occasion plus tard de se rencontrer en réel. Merci, Capucine.
Avec grand plaisir. Merci.
À bientôt.
Alors, Marie, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous décrire les 6 romans en lice ?
Alors, on vient d'avoir Les Déviantes par Capucine Delattre. Donc là, je pense que vous avez une bonne idée de ce qui s'y dit. Dans la sélection, on a aussi Béni soit Sixtine de Maïlys Adémar. Donc là, c'est plutôt un roman sur l'histoire d'une jeune femme qui a une histoire de famille très liée à la religion. Et puis d'un seul coup, elle va se découvrir différemment et sortir un peu de son milieu. On a aussi Dans la vallée du soleil d'Andy Davidson. Alors là, on est dans un genre très différent. On va plutôt vers le côté science-fiction avec une histoire un peu à la fois policière et en même temps avec des créatures un peu étranges. Ça se passe aux États-Unis et donc c'est un homme qui, on le comprend assez vite, tue des femmes sur sa route et qui un jour va en rencontrer une particulière qui va le hanter. Et je vous laisse découvrir pourquoi.
Et Marie, si vraiment on est un gros, gros lecteur de romans policiers, est-ce qu'on y trouve notre compte ?
Oui, tout à fait, avec Le silence de la ville blanche d'Eva Garcia Saenz de Urturi. Alors là, c'est un roman espagnol et tout démarre avec la découverte de deux corps enlacés, nus, dans une église. Ce sont deux personnes qui ont 20 ans, qui ne se connaissaient pas du tout et qui sont mortes, la bouche scotchée, avec une abeille à l'intérieur. Je vous laisse découvrir la suite.
Et par contre, si on a plutôt envie de voyage, de changer de pays, est-ce qu'il y a quelque chose qui correspond à cette thématique ?
Alors, il y a Du miel sous les galettes de Rukaya Ouédraogo. Alors là, ça se passe au Burkina Faso. Et c'est une petite fille, en fait, qui va raconter principalement l'histoire de sa mère, mais aussi du reste de sa famille. En fait, elle vit toujours collée à sa mère. Elle est sur son dos, enroulée dans un pagne. Et on va vraiment découvrir l'histoire de cette femme à travers les yeux de la petite fille.
Et puis, je crois qu'il y en a un qui traite plutôt d'un sujet social et familial, il me semble.
C'est ça, il s'agit de « Ce qu'il faut de nuit » de Laurent Petit-Mangin. Et donc là, c'est un père qui va se retrouver seul à élever ses deux fils. Et donc, c'est ce que lui, il va avoir envie de leur transmettre et ce qu'eux vont en faire derrière.
Très bien. Donc, peut-être que... on peut juste rappeler comment ça se passe pour s'inscrire
Alors, pour participer au prix, il faut être inscrit à la médiathèque. Ensuite, on vous demande juste de remplir un petit bulletin pour participer à Fictionnez-vous. Et puis, c'est parti, vous avez quelques mois pour lire les ouvrages et voter pour votre roman préféré.
On vous attend avec impatience à la médiathèque. Merci.
Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Radio Oulala.
Mais Justine, il manque encore des rubriques.
Ben oui, les deux portraits oulalesques arrivent. L'émission quotidienne où nous présentons tous les membres de la compagnie qui ne sont pas sous les feux de projecteurs, les figures de l'ombre, les petites mains sans qui nous ne fonctionnerons pas. Un immense merci à eux d'ailleurs. Aujourd'hui, la parole est à Michel, l'un de nos plus anciens bénévoles qui nous suit fidèlement depuis de nombreuses années. Et ensuite, ce sera moi, Justine, de passer devant le micro. C'est parti !
Ensuite, vous aurez donc au théâtre ce soir. N'oubliez pas, c'est un rendez-vous très attendu au niveau des auditeurs. C'est le 4e épisode Me dit Nicolas avec ses 4 doigts. Et vous retrouverez les émissions d'aujourd'hui, donc demain, sur l'AFM, de 7h à 9h et de midi à 14h. Allez, bonne soirée et bon théâtre.
Attention. Le programme qui suit est susceptible de questionner les participants sur des sujets existentiels et philosophiques. Afin de les laisser se préserver, ils sont autorisés à répondre complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, nous accueillons donc Michel Tessé, qui est également un bénévole de très longue date à la Oulala Company, qui est là depuis des années, fidèle à son poste depuis toujours. Bonjour Michel.
Bonjour Alexandre.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Est-ce que tu es prêt ?
Je suis prêt.
Qui es-tu, Michel ?
Alors, j'ai 67 ans. Ça fait 7 ans, en fin de compte, que je suis en retraite. Et ça fait 7 ans que je suis à la Oulala. Voilà. Et j'avais pris ça comme, je dirais, occupation principale pour ma retraite.
Tu fais quoi dans la vie ? C'est quoi tes passions ?
J'étais agriculteur. Je suis passionné de bricolage, j'adore ça. Et j'ai participé dans des pièces de théâtre depuis longtemps, mais maintenant c'est plus la technique dans les décors, dans ces parties-là, que je m'éclate. Voilà.
Comment es-tu arrivé là où tu es actuellement ?
Alors, je suis arrivé grâce à notre présidente, où on se côtoyait déjà dans d'autres associations culturelles. Et lorsqu'elle est venue à la Oulala, je l'ai suivie.
Chien ou chat ?
Chien.
Lequel des sept nains te correspondrait le plus, selon toi ?
Oh, je dirais joyeux.
Pain au chocolat ou chocolatine ?
Pain au chocolat.
Un bon conseil pour un bon confinement ?
Ne pas se faire prendre.
Si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait lequel ?
Un super pouvoir ? Oh là là, j'en ai pas envie.
Cinéma ou série ?
Ah, série, j'aime bien.
Que fais-tu de mieux que la plupart des gens, d'après toi ?
Oh, je suis un homme comme tout le monde. Non, j'essaie de faire les choses bien. Non, je fais pas mieux que les autres, non.
Molière ou Shakespeare ?
Ah, Molière, j'aime bien.
Qu'est-ce qui te motive dans la vie ? C'est quoi ton principal carburant ?
Le relationnel avec les autres.
Pizza ou burger ?
Ah, pizza.
Une ou plusieurs œuvres fondamentales pour toi ? Des œuvres qui sont vraiment importantes pour toi personnellement ?
J'aime bien les tableaux, j'aime bien la peinture. Bon, la musique, c'est tout le monde aime la musique. Mais non, la belle peinture, j'aime bien.
Si tu devais garder un seul mot dans la langue française, ce serait lequel ?
Gentillesse.
Selon toi, qu'est-ce qui manque le plus à l'humanité ?
L'humanisme.
Tu feras quoi dans 10 ans ou qu'est-ce que tu aimerais faire dans 10 ans ?
Je ne me pose pas la question.
Quelle est ta plus grande fierté, Michel ?
Ma famille.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ces questions.
C'est moi qui te remercie.
Eh bien, au plaisir de se revoir.
Oh, bah, avec grand plaisir, j'espère longtemps encore. Allez, salut.
Once more, you meet them, I'm your blue. Le programme qui suit est susceptible de questionner les participants sur des sujets existentiels et philosophiques. Afin de les laisser se préserver, ils sont autorisés à répondre complètement à côté de la plaque. Aujourd'hui, nous accueillons Justine, qui est donc service civique à la Oulala Compagnie. Bonjour Justine.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Est-ce que tu es prête à répondre à mes questions ?
Tout à fait.
Qui es-tu, Justine ?
Alors, j'ai 22 ans et je suis ici pour faire un service civique avec la Oulala Compagnie.
C'est quoi tes passions ?
J'aime monter à cheval, je monte à cheval depuis que je suis très jeune. Mes passions, c'est chanter, puis boire des coups avec les amis aussi. Hein. Puis quand les bars seront réouverts, ça pourrait être sympa.
Comment est-ce que tu es arrivée là où tu es actuellement ?
Alors, l'année dernière, donc, j'ai fait le choix de me reconvertir, donc j'ai quitté les chevaux, le milieu des chevaux, et j'ai décidé de partir un an à Londres, où je me suis reconvertie donc, dans la restauration pour tenter et puis parler anglais, etc., et vivre des expériences là-bas. Et en fait, en revenant en France, j'ai eu un accident et donc j'ai dû revoir un peu mes objectifs à la baisse. Et par le plus grand des hasards, je me suis retrouvée à la Oulala Compagnie parce qu'en fait, je voulais juste prendre des cours de théâtre. Et je me suis lancée donc, dans une aventure qui va durer maintenant 8 mois. Voilà.
Chien ou chat ?
Chaton.
Lequel des 7 nains te correspondrait le plus selon toi ?
Celui qui est un peu fou.
Joyeux ?
Ouais, joyeux.
Pain au chocolat ou au chocolatine ?
Ah, bah pain au chocolat.
Un conseil pour un bon confinement ?
Garder le moral, faire tout le temps quelque chose, jamais, jamais rester à rien faire.
Star Wars ou le Seigneur des Anneaux ?
Ah, le Seigneur des Anneaux.
Si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait lequel ?
Pouvoir me téléporter partout sur la Terre.
Cinéma ou série ?
Cinéma.
Que fais-tu de mieux que la plupart des gens selon toi ?
Mieux ? Je pense pas que je fais quelque chose de mieux. Je pense que... Oh, je sais pas du tout. Hein. Ça, c'est une question qui me pose une colle. Ouais, c'est un peu nul de répondre rien, mais du coup, je pense que j'ai rien à répondre.
Pizza ou burger ?
Ah, burger.
Pour toi, une ou plusieurs œuvres fondamentales, celles qui t'ont marqué toi personnellement ?
Je dirais même un acteur, pas au hasard, mais c'est vrai qu'il y en a déjà beaucoup. Je dirais Gérard Depardieu, qui pour moi est un acteur incroyable.
Si tu devais garder un seul mot dans la langue française, ce serait quoi ?
Vie.
Selon toi, qu'est-ce qui manque le plus à l'humanité ?
Le lâcher prise.
Qu'est-ce que tu penses que tu feras dans 10 ans ?
Si je suis encore de ce monde, j'espère, j'aimerais bien me la couler douce sur une plage dans un autre pays.
Quelle est ta plus grande fierté ?
De faire plein de rencontres et d'avoir le courage de faire, de me dépasser.
Eh bien, merci beaucoup Justine d'avoir accepté de répondre à ce petit questionnaire.
Eh bien, c'est moi.
Eh bien, au plaisir.
À plus avec la Oulala Compagnie.
Oulala, la 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 la. Radio Oulala.
Bienvenue au théâtre. La Oulala Compagnie a l'immense bonheur de vous retrouver pour le 4e épisode d'Un ami imprévu. Pièce écrite et adaptée par Robert Thomas d'après une nouvelle d'Agatha Christie. En cette matinée, dans la maison des Varnay, Michel Starrault, l'ami imprévu, se retrouve bien malgré lui au cœur de l'enquête. Sur ordre du capitaine Simoneau, qui a dû s'absenter, il est chargé d'interroger tous les membres de cette curieuse famille.
MacGregor ? Et si l'assassin n'était pas MacGregor ? Un point, c'est tout !
Elle sort. Michel est contrarié et regarde les papiers du capitaine.
Deux empreintes inconnues ? Ça alors ? Mais de qui ?
Michel va regarder les endroits désignés, bars et fenêtres, puis il boit un verre. On voit tomber du ciel de la terrasse une grosse corde, puis deux jambes apparaissent. Et voilà Jeanne qui saute par terre avec une souplesse de chat. Elle vient aboyer derrière Michel qui s'étrangle avec son alcool.
Quoi ? Vous ? Vous m'avez fait peur, d'où sortez-vous ?
Vous m'avez enfermé ! Je suis passé par la fenêtre.
Ça vous arrive souvent ?
Jeanne saute sur le canapé comme un diablotin.
Toutes les fois qu'on m'enferme, je monte sur le toit, je longe la corniche, Monte Cristo, Vida, Tarzan, et hop ! Mais Yvonne me le paiera !
Mais elle vous a bouclé avec raison, jeune fille. Hein ? Et d'ailleurs, je voulais...
Du café ! Ça m'est défendu, donc c'est bon ! Ils disent que c'est mauvais pour mes nerfs.
Michel lui enlève la tasse, la fait asseoir et la calme.
Bon, écoutez-moi. Vous l'avez vu, vous, MacGregor ?
Non, je n'étais pas avec eux en vacances à Arcachon. Mais Richard m'en a parlé, beaucoup. Il en riait.
Riait ? Mais il n'y a pas de quoi.
Oh, mais dès qu'il s'agissait de tuer un oiseau ou un chien ou un enfant, Richard riait.
Eh bien, j'espère que ça ne vous faisait pas rire, vous.
Non, mais parfois je riais quand même, pour lui faire plaisir. J'avais tellement peur qu'il me fasse entrer dans une maison de santé.
Ah. Et que disait donc Richard à propos de l'accident MacGregor ? Qu'il avait volontairement tué le gosse sur la route ?
Oui, qu'il avait même accéléré. Vlan ! Dites-moi, est-ce que si on attrape MacGregor, on va lui tirer 3 balles dans le cœur comme il l'a fait à Richard ?
Non, voilà une idée.
C'est la première fois que je vois un mort, ça me fait drôle. Richard avait l'air de dormir avec de la confiture de groseille sur sa chemise. Est-ce que vous voulez encore mes empreintes digitales ? Je veux bien, c'est amusant.
Non, ça ira.
Ce qui est étrange, c'est que le sang de Richard avait la même couleur que le sang des bêtes qu'il tuait. Peut-être que c'était le même sang.
On l'a un peu abattu comme une bête, en effet. Êtes-vous très chagriné par la mort de Richard ?
Oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré.
Quand ?
Eh bien, je ne sais plus quand, mais j'ai pleuré. J'aimais beaucoup Richard. Ce n'était pas mon vrai père. Je l'ai su très tard. Ça m'a fait mal. Mais il m'avait adopté, alors je l'aimais.
Sauf quand il voulait vous faire enfermer dans une clinique.
Oui, ça. Mais de la clinique, je me serais évadée par les toits. Monte Cristo, Vidocq, Tarzan, le dernier des Mohicans.
Elle rampe par terre comme un indien. Michel la fait taire et asseoir.
Richard aimait-il beaucoup votre mère ?
Beaucoup. Il voulait tout le temps l'embrasser.
Et elle ne voulait pas toujours ?
Des fois oui, des fois non. Moi, elle m'embrassait toujours, tant que je veux.
Vous l'aimez, hein ? Vous feriez n'importe quoi pour elle, hein ?
Oh oui ! Dites, maintenant qu'elle est veuve, c'est obligatoire, elle doit se remarier.
Hein ? Mais non !
Je n'ose pas en parler aux autres, ça me gêne. Toujours ils disent que je pose des questions comme un bébé de 5 ans. J'en ai 17 ! J'ai peur de dire une bêtise ou qu'on me conduise chez le docteur qui me fait des trucs électriques. Tac, tac, tac.
Est-ce vrai qu'Yvonne, l'infirmière, couchait avec Richard ?
Oh non ! Qui a pu vous dire cette méchanceté ?
Mais vous !
Moi ? Il ne faut jamais me croire.
Oh là là, bon, passons. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ?
Non, j'avais peur de l'orage. Je me suis cachée tout au fond de mon lit. Mais j'ai tout fait, alors j'ai ouvert mes fenêtres. Il pleuvait.
Et avez-vous vu quelque chose ? Quelqu'un ?
Qui ?
Bah, je ne sais pas.
Bah, alors, moi non plus. Mais il y avait des éclairs, hein. Pan, pan, pan.
Entrée de Laura, qui arrive des chambres.
Oh, tu es là. Sois sage.
Je mène l'enquête avec Monsieur Starrow.
Et enfin, nous bavardons, tant bien que mal.
Oh, je vous en prie, ne la tourmentez pas. Elle est très sensible.
Pourquoi tu dis ça ? Je ne suis plus une gamine. On veut toujours me faire passer pour une zéro dans cette maison. Je suis pas folle. Par exemple, j'ai très bien entendu les coups de feu.
Vous avez entendu les 3 coups de feu ?
Oui, mais attention, vous parlez des premiers 3 coups de feu ou des deuxièmes 3 coups de feu ? Ha !
Michel sursaute et regarde Laura.
Il y en a eu plusieurs ?
Oui, d'abord quand j'étais au fond de mon lit, puis avant que maman parle sur le palier avec grand-mère, Margot et Yvonne.
Non, mais attendez, parlez-nous d'abord des premiers 3 coups de feu. C'était combien de temps avant les 3 autres ?
Une demi-heure.
N'as-tu pas confondu avec l'orage ?
Ah, peut-être, oui. Les éclairs, pan, pan, pan !
Bien sûr.
Tu ne les as pas entendus, maman, les 3 premiers coups de feu ?
Non, je dormais. C'était sans doute des coups de tonnerre.
Oh, c'est ça. Vous avez peut-être raison. C'était l'orage.
Laura et Michel n'osent même plus se regarder.
Madame, vous m'avez dit que votre fille semblait tragiquement redoutée que Richard ne l'envoyât dans un asile.
Il n'a jamais été question de ça. Richard la taquinait.
Mais non, Richard disait que je ne verrais plus jamais personne et que tu ne me porterais des oranges que 2 fois par an.
Mais non, mais c'était pour te faire peur. Richard t'aimait beaucoup, il n'aurait jamais fait ça.
Richard m'aimait ?
Mais oui, il l'a dit très souvent.
Il m'aimait ? Il m'aimait ? Ça alors ? Richard m'aimait. Oh, je vais le dire à grand-mère Margot Yvonne, ça va les étonner. Richard m'aimait, Richard m'aimait, Richard m'aimait.
Michel écoute. Regarde s'ils sont seuls.
Je voulais enfin vous dire que, non pas que je regrette, mais...
Laura lui fait signe de se taire, car elle pense qu'on les écoute. Elle regarde ça et là.
Cette histoire va encore bouleverser davantage Jeanne.
Oh, Jeanne est plus maligne qu'on ne le croit. Hein. Elle risque de nous surprendre.
Impossible. C'est une âme enfantine.
Votre fille a bientôt 17 ans. Elle est devenue une femme, ne l'oubliez pas. Vous ne pouvez pas prévoir ses réactions.
Ne me tourmentez pas. Je ne sais plus où j'en suis.
Elle s'assoit, soudain lasse.
Et moi, la position dans laquelle je me suis fichu m'oblige à vous poser aussi quelques questions indiscrètes. Ça ne m'amuse guère, mais c'est comme ça. Je suis prise au piège.
Suis-je obligée de répondre à toutes vos questions ?
Oh, refuser de répondre, c'est un genre de réponse, vous savez.
Bon.
Votre mari et vous, étiez-vous toujours... comment dire ? Votre mari était-il encore...
Non ! Richard n'avait plus l'air de se préoccuper de ces problèmes-là.
Merci. Et pardonnez-moi.
Vous êtes pardonné. Mais avouez que c'était une question personnelle, sans rapport avec l'enquête, n'est-ce pas ?
Michel rougit un peu, puis fait diversion.
Saviez-vous que quelques mois plus tard, au Canada, la mère du petit MacGregor était morte de chagrin ?
Oh ! Quelle horreur ! Mais je ne savais pas.
Oui.
Jeanne entre brusquement, toute pâle.
Maman ! J'ai dit à Yvonne que Richard m'aimait. Et elle m'a dit que ce n'était pas vrai.
Et la gamine pleure. Laura va à elle et la fait asseoir, la prend dans ses bras.
Il ne faut pas croire Yvonne. Elle est jalouse de toi.
Mais bien sûr que Yvonne est jalouse. Elle est furieuse de savoir que Richard m'aimait. Puisqu'elle l'aimait aussi.
Hein ?
Oui. Souvent, je les ai vus s'embrasser. Souvent.
Écoute-moi, Jeanne. Ce que tu viens de me dire, il ne faut le dire à personne. Jure-le-moi.
Je te le jure.
On ne le dira que si ça nous arrange.
Elle prend sa fille dans ses bras et l'embrasse encore.
Là, c'est le capitaine qui revient. Mais il n'est pas seul. Un homme est avec lui.
Un homme ? Qui ?
Ah, je ne le connais pas.
Entre brusquement, Julien Ferron, 40 ans. Élégant, dégagé, le capitaine le suit.
Julien ?
Quel drame, cher ami !
Il embrasse Jeanne, serre la main de Laura avec effusion, puis il va vers le capitaine.
Ah, heureusement, vous êtes là, Simoneau. Je suis rassuré.
Je fais pour le mieux, monsieur le député.
Que tout cela soit réglé dans la discrétion. Nous n'avons pas besoin de si tragiques faits divers dans notre arrondissement.
Ah, ça oui. Mais moi, j'ignorais que vous connaissez bien monsieur Varnet.
Un ami, presque un frère, ma chère Laura.
Merci d'être venu, Julien.
J'ai appris ça il y a 20 minutes. J'ai cru devenir fou. Richard, était-ce possible ?
Assassiné par un nommé MacGregor, monsieur Ferron.
MacGregor ? Ah, je connais l'histoire. Hélas, nous le redoutions. Et c'est arrivé.
Oui, 3 coups de feu. Pan, pan, pan ! Plein de sang, comme les lapins.
Sois calme, Jeanne.
Margot apparaît. Julien se précipite vers elle et lui fait le baise-main.
Chère madame, quel drame !
Je suis très touchée de votre visite, Julien.
Richard était mon meilleur ami. Il était pour moi l'évasion. Il me racontait ses chasses en Afrique. Capitaine, j'espère que nous allons rapidement retrouver ce MacGregor.
J'attends un coup de fil du commissariat d'Arcachon.
Ah ben, je l'ai reçu. On a envoyé un câble au Canada. C'est ce que m'a chargé de vous dire le commissariat d'Arcachon. Je l'ai noté dans votre cahier avec quelques autres petites choses, mon capitaine. Voilà.
Épatant, merci.
Julien fixe Michel.
Qui est ce monsieur ?
Oh, mon cher Julien, je vous présente monsieur Michel Starrow, qui a vu le criminel s'enfuir. Il a eu la gentillesse de rester quelques heures avec nous.
Monsieur, enchanté. Julien Ferron, industriel.
Michel vient à lui, la main tendue.
Enchanté.
Julien ne lui tend pas la main.
Vous étiez ici à l'heure du crime, monsieur. Quelle coïncidence.
Oui et non. L'orage. Le chemin bourbeux a jeté ma voiture dans le fossé, en face de la maison.
Ce n'est guère la peine que vous soyez au conseil général, Julien. Depuis le temps que je réclame que l'on goudronne notre route...
Oh, j'ai fait ce que j'ai pu.
Et vous n'avez rien pu.
Une gêne. Elle ajoute avec une certaine insolence.
Voulez-vous quand même une tasse de café ?
Non, merci.
À Michel.
Vous êtes de la région, monsieur ?
Non, pas du tout. Enfin, ma grand-mère y est née. Moi, j'ai vécu surtout à Marseille, puis à Rome. Et depuis quelques années, je suis au Golfe Persique. Je suis inspecteur à l'Anglo-Irak.
Ah, l'Anglo-Irak. Alors, vous devez obligatoirement connaître monsieur Postecfirak.
Évidemment. J'ai même voyagé avec lui et sa femme dans l'avion Tokyo-Le Caire il y a 10 jours.
Et toc !
J'ai voulu faire des affaires avec eux. Impossible. Ils sont trop durs.
Vous êtes dans quelle branche, monsieur ?
Matériaux de construction. Mais on n'y gagne plus sa vie. C'est un désastre.
D'où la nécessité de faire de la politique. Ça aide.
Retoc !
Un froid terrible. Tout le monde se regarde.
Eh bien, mon capitaine, nous pourrions peut-être libérer monsieur Starrow à présent qu'il a fait sa déclaration.
Oh, vous êtes très aimable, monsieur. Mais si cela ne vous ennuie pas, je resterai encore un peu le temps que les dépanneurs viennent sortir ma voiture du ruisseau. D'autant que je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que je vais être encore très utile ici.
Retoc.
Le temps s'est radouci, hein, mais hier une tornade. Avec Bouis, on a failli rester, du côté des Greville. Quel métier que la gendarmerie.
J'espère, monsieur le député, que vous étiez à l'abri hier soir, à l'heure du crime.
Oui, tout à fait au sec. J'avais une réunion des conseillers généraux à la préfecture.
Mais Julien, vous deviez passer ici après. Richard vous attendait, il me l'a dit.
Je ne lui avais rien promis. Quand j'ai vu le temps, je suis rentré chez moi.
Il est assez nerveux. Il ouvre son étui à cigarettes. Il en prend une et cherche du feu sur lui. Michel, alors, sort de sa poche le briquet. Le briquet trouvé sur le mort. Et le tend à Julien. Julien le prend et allume sa cigarette.
Merci.
Et incroyable geste machinal, Julien met le briquet dans sa poche de gilet. Le briquet est donc à lui. Personne n'a fait attention à l'incident, sauf Michel et Laura, effarés. Les deux complices se regardent. Laura, terrifiée, baisse les yeux.
Ah, c'est la voiture de dépannage avec sa grue. Je vais sortir ma voiture du ruisseau. Mais je reviens.
Il sort.
Ce monsieur est sans doute un excellent témoin, mais il ne brille pas par son savoir-vivre.
Il est tout bizarre, soudain.
Laura s'est approchée de Julien et du doigt lui touche la poche briquet. Il sursaute, comprend. Elle lui souffle.
Il faut que je te parle.
Oui.
Laura, pour évacuer le capitaine.
Capitaine, vous devriez aller inspecter la chambre de mon mari. Il y a toutes sortes d'armes.
Quand Richard était de bonne humeur, il me prêtait un fusil. Je tirais aussi. Bing, bing. J'ai tué une pie. J'ai aussi tiré avec un gros fusil qui lui servait en Afrique à tuer les éléphants. Boum. Ils ont la peau dure. Capitaine, vous avez déjà tué des éléphants?
Non.
Et toi, grand-mère?
Tu sais, dans la forêt de Fontainebleau, les éléphants sont assez rares.
Et elle sort vers les étages, fuyant le bruit.
Voulez-vous voir une lance de pygmée et des balles de US-17 et un fusil à lunettes?
Vous devriez faire l'inventaire de cet arsenal, capitaine. On ne sait jamais.
Je vais le faire.
Suivez-moi. Il y a aussi un piège à renard, un arc avec des flèches, un fusil à harpon.
Ils sont sortis. Julien, seul face à Laura.
Que se passe-t-il? Tu es très nerveuse.
Chut! Le briquet! Staro ne savait pas que c'était le tien. Tu l'as mis dans ta poche.
Et alors?
Je l'ai trouvé hier soir.
En effet, je savais l'avoir perdu. Merci.
Laura court à la fenêtre et regarde.
Cet homme risque de nous écouter. Où est-il passé?
Tu es bien étrange, Laura. Regarde-moi.
Michel Staro s'est glissé dans la pièce par une porte et se cache pour écouter.
Tu m'aimes toujours?
Il l'enlace. Elle se débat.
Oui, mais...
Tu sais que je ferai tout ce que tu voudras.
Mais les empreintes sur le bar et la fenêtre, ce sont les tiennes.
Mes empreintes?
Pour l'instant, et je t'écris pourquoi, grâce à ce témoin, la police court au Canada après MacGregor.
Alors tout va bien, ne t'inquiète plus de rien. Nous allons être libres.
Il l'embrasse amoureusement.
Je me sauve.
Si vite? Je te téléphone dans une heure pour te dire que... Julien...
Je t'adore.
Il se sauve. Laura fait un pas pour le suivre, il renonce, s'appuie au mur. Michel arrive derrière Laura et l'attrape par le bras.
Je crois que vous ne m'avez pas tout dit hier soir, pas tout.
Hein? Que voulez-vous?
Cet élégant monsieur, c'est votre amant, n'est-ce pas?
Enfin, oui, mais...
J'ai volontairement organisé le coup du briquet, figurez-vous.
Oui, Julien avait oublié son briquet ici il y a quelques jours et Richard s'en servait, voilà tout. Qu'allez-vous chercher?
Vous aimez cet homme?
À quel titre me posez-vous cette question?
À titre personnel.
Il se fixe.
Eh bien oui, j'aime Julien, voilà. Et après?
Alors pourquoi n'avez-vous pas divorcé d'avec Richard pour épouser Julien?
Impossible. Sa carrière politique...
Ah, évidemment. Voler la femme d'un infirme, ça fait pas très palais Bourbon. Avouez plutôt que c'est parce qu'il ne doit pas avoir le dixième de l'argent de Richard.
Écoutez, Michel, je suis très coupable envers vous. J'ai oublié de vous parler de lui hier soir, mais...
Oublié? Mais vous m'avez pris pour un bel imbécile, oui?
Non, je venais de tirer sur Richard, je n'avais plus ma tête.
Ah oui, évidemment, c'est ça. Donc, vous avez tiré sur votre mari. Et de quel endroit?
Hein?
Oui, où vous trouviez-vous lorsque vous avez fait feu?
Là!
Elle indique vaguement la place.
Mettez-vous à la même place, madame, s'il vous plaît.
Elle ne bouge pas. Il la pousse fermement, puis il installe la voiture d'infirme où elle était.
Donc, Richard vous a dit quelque chose, cela a fait bouillir votre sang, vous avez pris son revolver.
Oui.
Il le prend sur la table du capitaine et le lui colle dans la main.
Et vous avez tiré?
Oui.
Michel s'assoit dans la voiture, à la place du mort.
Montrez.
Comme ça.
Mais tirez.
Non, non.
Mais il est plus chargé, tirez.
Non, laissez-moi.
Mais tirez donc.
Elle se force terriblement, ferme les yeux et appuie des deux mains sur la gâchette. Rien ne part. Michel se lève et la désarme.
Ma pauvre petite, vous n'avez jamais tiré au revolver. Vous n'avez même pas enlevé le cran d'arrêt. Vous n'avez pas tué votre mari.
Si, je l'ai tué.
Non, vous couvrez quelqu'un. Vous couvrez quelqu'un et ce quelqu'un, c'est votre amant, Julien Ferron.
Non.
Et en me voyant soudain, vous avez réalisé que j'allais vous être utile. Hein. Le ciel en déluge, vous envoyait un naïf à exploiter. Alors vous m'avez fait marcher.
Ce n'est pas vrai.
Et mais maintenant, je ne marche plus. Et je vais aller jusqu'au bout de l'enquête. Je n'ai pas épargné, monsieur le député. Je vais tout raconter à la police. Tant pis pour vous.
Non. Vous ne direz rien à la police.
Et pourquoi donc?
Parce que vous risquez 2 ans de prison pour fabrication de faux indices. Vous avez organisé la piste de MacGregor. C'est trop tard. Il ne fallait pas faire de découpage avec du papier journal. Tant pis pour vous.
Savez-vous ce que vous méritez, petite garce?
Vous êtes mon complice à présent, malgré vous, de gré ou de force. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix.
Et c'est la fin de l'épisode de notre pièce de théâtre radiophonique, Un ami imprévu. C'était au théâtre ce soir, sur Radio Oulala. Rendez-vous demain à 20h40 pour la suite.
C'était le direct live de la radio Oulala. Retrouvez toutes les émissions en podcast sur notre site internet laoulala.fr. Pour terminer cette soirée agréablement, nous vous proposons une dernière douceur musicale. Bonsoir.
Radio Oulala.